Alors Audrey, petit bilan au bout d'un an et demi d'orbite, est-ce que tu es globalement contente de la manière dont ça se passe ?
Alors bonjour, oui, globalement contente, pour plein de raisons, parce que lancer un nouveau label dans un marché qui était déjà assez important, c'était pas évident, il y avait déjà une belle production. Ce qui était aussi pas évident, c'était l'expérience en elle-même, puisque importer un label anglo-saxon, bah, ça s'était encore jamais fait sur le genre, mais je crois même en France. Voilà, pas évident non plus parce qu'on est arrivé avec pas mal de nouveaux auteurs, donc c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas encore du tout connus en France, même s'ils l'étaient parfois déjà aux États-Unis, en Angleterre, pas forcément d'ailleurs. On a aussi lancé des gens qui venaient tout juste de paraître là-bas. Et bah pour toutes ces raisons, oui, on est plutôt content. On a vraiment des auteurs qui se sont détachés, on a des ventes qui sont au rendez-vous sur certains cycles, certains titres. Et il y a une semaine, 2 semaines précisément, on a rentré pour la première fois depuis donc le début du label un titre dans les meilleures ventes du livre hebdo. Voilà.
C'était quel titre ?
Il s'agissait du Déborah Harkness, le livre perdu des sortilèges. Voilà. Voilà, alors après, pour nuancer un petit peu tout ça, l'état du marché n'est pas très bon non plus. Il y a quand même une grosse baisse de fréquentation en librairie depuis le début de l'année, qui est quand même très inquiétante, et pas seulement pour les genres mainstream ou le polar, enfin le livre en général, mais aussi quand même pour nous, pour les genres de l'imaginaire. Et j'espère vraiment que cette baisse ne va pas durer et puis que la tendance va un petit peu s'inverser.
Simplement, qu'est-ce qui a le mieux marché chez toi depuis le début ?
Alors aujourd'hui c'est le Déborah Harkness, le livre perdu des sortilèges. On peut citer aussi Christine Cachor, hein, qui avait vraiment eu un très bon résultat, que ce soit avec Graisling ou avec Rouge, son deuxième roman. Et ça, alors même que les romans étaient parus chez Hachette Jeunesse, donc double exploitation, et finalement on a vendu le double de Hachette Jeunesse, voilà, sur les titres. Le troisième donc de Christine paraîtra l'année prochaine, ça s'appelle Bitter Blue, et il paraîtra simplement chez Orbit.
Alors, j'ai pas lu le nouveau, mais est-ce qu'il y a des liens entre les deux auteurs globalement ? Est-ce qu'on peut tout du moins définir une fantaisie qui marche plus qu'une autre ?
C'est un petit peu difficile, oui. D'une manière générale, ce qu'ils appellent aux États-Unis l'urban fantasy, donc ce que nous on appelle en France, disons, la beatlit ou le fantastique, et l'epic fantasy, enfin la fantasy épique en France, oui, ça fonctionne traditionnellement mieux. Après, c'est toujours un petit peu difficile aussi. Les auteurs sont tellement... ils ont vraiment leurs univers à eux, leurs histoires à eux. Moi, je trouve qu'entre Déborah Harkness et Christine Cachor, ou même Brandon Sanderson, qui marche aussi très bien chez nous, leur point commun, c'est que chaque fois, c'est des histoires qui fonctionnent extrêmement bien, qui sont bien faites, avec un vrai sens du récit, une gestion de l'émotion qui est là aussi. Et en même temps, il n'y a pas grand-chose d'autre de comparable. C'est-à-dire que c'est chaque fois des univers très différents, des histoires très différentes. Voilà. Donc oui, c'est un petit peu difficile. Je ne sais pas.
Il y a eu un gros passage beatlit, avec notamment Elite Synchro. Enfin, pendant 2-3 mois, les titres ont été plus beatlit. Alors, deux questions. D'abord, est-ce que ça s'est bien intégré dans l'ensemble de la collection ? Et puis, deuxièmement, est-ce que publier de la beatlit en même temps que de la fantasy, globalement, ça pose pas un gros souci dans une même collection ?
Non. Enfin, je crois que si on adapte comme ce qu'on fait avec avec Orbit depuis le début, c'est-à-dire si on adapte les couvertures, si on adapte la communication qu'on fait sur les titres, la façon de les éditer, de les présenter à chaque auteur, on a vraiment plus de chances de toucher le bon public. En l'occurrence, je pense qu'aujourd'hui, le public de la fantasy épique et celui de la beatlit sont pas si différents. La beatlit, c'est de l'imaginaire, c'est de l'aventure, c'est de l'action, c'est du sentiment, c'est un petit peu aussi ce qu'est l'épique fantasy. Donc voilà. Moi, personnellement, en tant que lectrice, j'aime autant l'un que l'autre. J'y trouve pas exactement le même type de plaisir, mais dans les deux cas, il y a vraiment du plaisir. Donc voilà, c'est pas du tout, c'est pas du tout incongru, je trouve, de publier au sein d'un même catalogue ces sous-genres de l'imaginaire ensemble. Voilà.
Une petite question sur les auteurs qui viennent en dédicace. L'année dernière, il y avait Christine Cacheur ici. Brandon Sanderson est venu aux Utopiales, il est encore là. C'est un vrai plus en termes de vente de faire venir un auteur en France. C'est rentable?
Alors ça, vaste question. Est-ce que la communication qu'on fait sur dans une maison d'édition est rentable? Si on n'en faisait pas, il est sûr que ça se passerait forcément moins bien. Après, chiffrer exactement, évaluer exactement le résultat, les ventes à l'aune de cette communication, c'est extrêmement délicat et difficile. Ce qui est sûr, c'est que les auteurs, les auteurs sont ravis de venir, sont ravis de faire la promotion de leur livre, d'en parler, sont ravis de venir en France, tout simplement. Et deux, le public a l'air ravi de les rencontrer. Et je ne vous parle pas aussi de mon propre plaisir à les voir. Quand on travaille sur des textes ou qu'on vend des textes depuis un petit moment, c'est toujours comme une espèce d'aboutissement, de rencontrer l'auteur, de parler avec lui de son univers, de ses projets, de la façon dont il fonctionne ailleurs. Donc pour toutes ces raisons, c'est des choses qu'on a envie de poursuivre, de continuer, quel que soit un petit peu le coût de ces opérations, qui n'est pas nul.
Ouais, tu vois pas une différence, pas parce que Christine Cachor vient en France qu'il y a 1000 ventes de plus dans le mois qui suit, quoi.
C'est pas aussi clair, c'est pas aussi net, mais c'est évident qu'il y a forcément un impact, oui. Voilà.
Petite question sur le poche, parce qu'il y a des titres livres de poche fantasy, il y a des titres hors de poche. Comment se fait la différenciation, où on en est parfois, ça semble...
Non, t'as tout à fait raison, c'est extrêmement compliqué. Ce qu'il faut voir, c'est que le poche publie de l'imaginaire depuis longtemps. Il a commencé avec la science-fiction, mais aussi avec des titres comme Bilbo ou L'Histoire sans fin, ou Bradley, les Dames du Lac, qui n'étaient pas forcément étiquetés imaginaire ou fantasy ou fantastique ou ce qu'on veut. Dans le catalogue, mais qui existait depuis déjà des années, qui se vendait extrêmement bien. On a essayé de rationaliser un petit peu tout ça depuis quelques années. C'est toujours des démarches qui sont un petit peu longues, qui prennent du temps, parce que justement, elles nécessitent pas mal d'ajustements, de travail. Et donc, on est toujours en train de construire quelque chose, en l'occurrence, le catalogue de l'imaginaire au livre de poche. Il nous avait paru aussi intéressant quand on a lancé le label il y a un an et demi de le décliner en poche, d'où l'ajout du logo au livre de poche. Ce qu'il faut voir ensuite, c'est que le livre de poche, c'est une maison qui est extrêmement ancienne, c'est une des premières pour le poche, c'est une maison qui est forte, c'est-à-dire qu'il y a une force de diffusion et de vente qui est vraiment réelle. Ils étaient premiers l'année dernière sur le marché, on a fait des très bons chiffres aussi sur l'imaginaire, quels que soient les genres, d'ailleurs même en science-fiction. On ne peut pas se couper non plus du livre de poche en soi, parce que c'est une vraie force, c'est une vraie dynamique pour l'imaginaire dans ce format-là. Voilà.
Globalement, la question projet, programme de parution, qu'est-ce qui va se passer au deuxième semestre
Sur Orbit, hein. Ouais. Alors... pas mal de Bitlit, suite de Lilith Synchro, des histoires de Dany Valentine, une nouvelle série de Lilith Synchro, Gilles Kismet, avec une héroïne beaucoup plus marquée que Dany, donc avec un univers un petit peu plus âpre. La suite aussi des aventures de Miss Alexia Tarabotti, de Gail Garriger, qui a été pour laquelle on a eu pas mal de très bons retours de lecture. Je crois qu'elle est assez attendue, on me demande la suite là depuis un bon moment. Elle était nominée également au prix des Imaginales dans la catégorie roman étranger. La suite aussi des 10 000 de Paul Kearney, Corvus, qui est en fait une espèce de relecture du mythe d'Alexandre. On retrouve évidemment les guerriers mages et J.V. Jones, la suite du cycle de J.V. Jones. Voilà. Donc pas mal de suites et aussi quelques nouveautés. Voilà.
Petit point sur Mango, là aussi on en est où, quelle est la situation?
Alors Mango, on a resserré la production parce que le secteur young adult aujourd'hui commence à être bien rempli, bien fourni. Donc il y a eu une volonté là récemment de resserrer pour publier mieux et un peu moins. Voilà. Donc l'idée, c'est d'accompagner mieux les titres en termes de communication, en termes de présentation auprès des libraires, auprès du public, en essayant d'accompagner par exemple le livre avec un site à chaque fois. L'idée c'est aussi vraiment de lancer les débuts de cycle, donc de ne pas les faire sortir comme ça un petit peu dans l'indifférence générale, mais vraiment d'anticiper un petit peu sur la parution, en faisant lire le livre, en le diffusant un peu plus largement. C'est ce qu'on a fait avec Birthmark de Cara O'Brien. On poursuit également, alors moi je m'occupe plus particulièrement maintenant chez Mango de la partie anglo-saxonne, notamment d'ailleurs avec Oisin McGann, l'Irlandais, qui sera présent à Saint-Malo, qui a été aussi nominé au prix des Imaginales dans la catégorie jeunesse, et pour lequel on a aussi de très bons retours de lecture. On continuera ce cycle, on continue également avec Brandon Sanderson et la série d'Alcatraz, qu'on a relooké récemment, et d'autres des nouveautés l'année prochaine, toujours quand même, en tout cas sur ma partie aussi, quelques Français, pas forcément la majorité, mais quelques Français choisis, et je peux déjà citer les noms de Manon Farguéton, avec qui on est en train de travailler actuellement sur un projet, et je suis très excitée parce que son roman s'annonce vraiment exceptionnel. Et Charlotte Bousquet, que je ne vais pas présenter parce que je pense que vous la connaissez, qui publiera l'année prochaine donc Anouri, qui est un espèce de thriller polaire, voilà, dystopie, thriller polaire, haletant, et vraiment qui tient aussi toutes ses promesses.